RJB Info.
Le journal, Alexandre Steiner.
Bonsoir. Les tensions qui secouent le Nicaragua trouvent un écho dans la région. Une association biennoise est en contact régulier avec la population sur place. Elle regrette le chemin pris par les politiques au pouvoir depuis 40 ans. Une semaine de chantier estival pour l'attraction. L'association passionnée de chemin de fer historique rénove actuellement un aiguillage ancien. François Comte nous livrera son reportage. Geraint Thomas s'impose à l'Alpe d'Huez. Le maillot jaune du Tour de France vient de remporter la 12e étape de l'épreuve au terme de 175,5 km de course. Il a devancé Tom Dumoulin, Romain Bardet et Chris Froome. Des orages locaux ne sont pas exclus en début de soirée. Demain matin, le temps sera encore ensoleillé et chaud, 26 à 29 degrés au maximum. Il deviendra plus lourd au fil des heures et des averses et orages sont à prévoir. Mais avant de développer ces titres, le processus de recherche d'un repreneur pour l'hôpital de Moutier se précise. Le conseil d'administration de l'hôpital du Jura-Bernois indique aujourd'hui qu'il vient de donner son feu vert à une grande banque suisse spécialisée dans la transmission de sociétés pour trouver un repreneur à la filiale Hôpital de Moutier SA créée récemment. Le conseil d'administration de l'HJB indique qu'il restera particulièrement vigilant aux propositions des potentiels repreneurs en termes de maintien des emplois, de projets médicaux et de coopération. Son président, Anthony Picard, précise qu'il privilégie toujours la reprise par un partenaire public, en l'occurrence le canton du Jura, sans toutefois exclure la vente à un privé. Il indique également que les contacts avec l'hôpital du Jura sont bons et empreints de franchise de part et d'autre. Une association biennoise en solidarité avec le Nicaragua, l'association de jumelage Bilbien San Marcos, soutient le peuple et s'inquiète pour l'avenir du pays secoué par des manifestations depuis avril. Les opposants au régime veulent la démission du président actuel. Ils subissent en retour violence et répression de la part des dirigeants. Le parti sandiniste, à l'origine d'une révolution en 1979, est au pouvoir depuis. L'association de jumelage partageait ses valeurs à l'époque, mais elles ont bien changé, selon son gestionnaire Hans Müller, qui nous fait part de sa déception.
Pour nous, c'est absolument dramatique parce que on a défendu aussi ces valeurs de ce parti, donc Frente Sandinista de Libération Nationale, qui ont fait chuter le dictateur et qui ont défendu des valeurs importantes dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la répartition des terres. C'était des valeurs que nous défendions aussi sans être partisans ou membres du parti. Et maintenant, ce gouvernement ou ses dirigeants sont au pouvoir depuis 40 ans. Et c'est trop. Ils changent de valeur et commencent à être un régime très centraliste, de diriger tout, de contrôler tout. Et maintenant, ça a éclaté.
Une semaine de travail intensif pour l'attraction. L'association qui restaure et exploite des locomotives et des trains historiques mène actuellement des travaux près de son dépôt situé au Pré-Petit-Jean. Il s'agit de remplacer des traverses en bois d'un aiguillage ancien. Une dizaine de bénévoles s'activent sur le chantier. Comme l'an dernier, ils sont aidés par des personnes prises en charge par l'AJAM, l'association jurassienne d'accueil des migrants. François Comte s'est rendu sur place aujourd'hui pour assister aux travaux. Son reportage.
Emmanuel Gonia, vous êtes donc le président de l'attraction. Alors en quoi consistent ces travaux ici ?
Alors nous changeons les traverses d'un aiguillage. L'aiguillage date de 1917, mais les traverses ont déjà été changées plusieurs fois. Et puis là, il était nécessaire de renouveler ces traverses qui sont en train de pourrir. Et on en met des nouvelles à la place.
Alors c'est un chantier qui nécessite quand même de l'équipement. On voit qu'il y a un petit trax, des marteaux piqueurs. C'est assez lourd quand même.
Oui, c'est pour ça qu'on organise ça sur une semaine de travail par nos bénévoles. Ça nous permet de louer le matériel ou l'emprunter. En termes d'outillage d'infrastructure, on est relativement peu équipé. On est très bien outillé pour tout ce qui est mécanique, entretien des véhicules, mais pour ce genre de travaux, on doit emprunter du matériel.
Pratiquement, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer de traverse concrètement ?
Alors, il faut dégager tout le ballast, donc les pierres qui maintiennent la voie en place. Ensuite, on dévisse ou on décloue. Là, on a dû déclouer. C'était encore de vieux clous qui tenaient les rails sur les traverses. On enlève ces clous, on tire les traverses, on remet de nouvelles traverses en place. Ensuite, on doit percer, tirefonner, c'est-à-dire visser les rails sur les traverses. Et après, on remet le ballast et il faut bourrer. C'est ce qu'on entend maintenant, des bourreuses qui tassent les pierres sous la voie. Et c'est ça qui va régler la géométrie finale de la voie.
On va aller voir des bénévoles, si vous voulez bien.
Alexandre de Pauvert. Je suis bénévole à la traction depuis un peu plus de 12 ans.
Et ce chantier ici, il est particulièrement difficile ou compliqué ?
Ouais, au début, il faut un peu se mettre dedans. Comme ce n'est pas notre métier, on apprend un peu le métier de monteur de voie. Mais finalement, au bout de 4 jours, je suis assez content parce que ça s'est très bien déroulé. On a avancé plus vite que ce qu'on pensait.
Le marteau-piqueur juste à côté, ce n'est pas dérangeant ?
Un petit peu, mais ça fait partie du travail qu'il faut accomplir pour le changement de ces traverses.
Alors on va demander à un des requérants d'asile qui travaille ici comment ça se passe. D'abord votre nom, votre prénom.
Germay. Ça passe bien, c'est très bien et moi aussi je suis content de travailler ici et c'est très bon.
Le marteau-piqueur, c'est pas trop pénible, pas trop dur ?
Non, c'est pas trop dur, c'est bon.
Emmanuel Gogna, cet apport de personnes de la JAM, c'est important pour la traction ?
Pour nous, c'est extrêmement précieux parce que ça nous permet vraiment d'avancer. C'est quand même 5 personnes sur une quinzaine au total qui sont présentes cette semaine, donc c'est un tiers. Je dirais que c'est presque indispensable pour une semaine de travail comme celle-ci si on veut mener à terme des chantiers de cette importance.
Et le chantier lancé par la traction a démarré lundi et doit se terminer demain. C'est bientôt la fin de l'enfer pour les automobilistes qui traversent la Chaux-de-Fonds d'est en ouest. Le chantier du pont du Manège est presque terminé. La circulation sera rétablie demain en fin de journée, mais seulement pour 3 semaines. Une nouvelle fermeture est prévue à partir du 13 août, juste après le marché concours. Et ces travaux, qui devraient principalement être effectués de nuit, dureront jusqu'à la fin du mois d'août. Nous combinons la recherche scientifique de pointe avec la pratique des médias numériques. C'est mot émane de Ralph Buchy, le patron du groupe de presse Ringier. Il s'est exprimé aujourd'hui pour le lancement d'une action qui vise à soutenir l'innovation dans les médias. Plusieurs acteurs publics et privés des médias, ainsi que l'EPFL et les universités de Genève, Lausanne et Neuchâtel, ont constitué un fonds doté annuellement de 650 000 francs. Il permettra de financer des projets de recherche en lien avec les défis que doivent relever les médias. Est-ce la recette miracle pour les sortir de l'ornière, les explications du bras opérationnel du programme Mounir Krishan.
Je ne sais pas s'il existe une recette miracle, j'en doute. Cette initiative, elle a vraiment comme but de rassembler des acteurs académiques, privés, publics, autour de problématiques liées à l'innovation média. On est vraiment dans une démarche d'innovation ouverte. Avec l'initiative pour l'innovation dans les médias, on essaye vraiment de mélanger un maximum les genres. Persuadé qu'on va réussir à faire une meilleure innovation comme ça. Donc on va s'intéresser aux problématiques techniques liées aux changements dans le numérique, par exemple, mais on va aussi faire ça en relation avec les sciences humaines, sociales, les questions d'éthique, les questions de modèle d'affaires, par exemple. Voilà. Donc c'est vraiment un ensemble de thématiques et leur mélange qui seront intéressants.
La Confédération soutient directement ce programme, mais certains acteurs des médias, comme Tamedia, n'y participent pas. À Genève, un incendie s'est déclaré cet après-midi dans les combles de l'église du Sacré-Cœur, située dans le quartier de Plainpalais. 3 niveaux de l'édifice se sont déjà effondrés. Selon les pompiers, le plafond est en train de se fissurer et l'effondrement de tout l'intérieur du bâtiment est inéluctable. Il n'y aurait en revanche pas de risque pour les murs extérieurs. Cette église catholique est située le long d'un axe routier important. Les lignes de bus et de trams sont interrompus dans le périmètre. La circulation est également déviée. Pas d'extradition pour Carles Puigdemont et les dirigeants indépendantistes catalans. Le juge espagnol chargé de l'enquête sur la tentative de sécession de la Catalogne a retiré aujourd'hui les mandats d'arrêt internationaux à leur encontre. Concrètement, l'ex-président catalan et les 5 autres dirigeants encore en fuite sont donc désormais libres de se déplacer à l'étranger sans courir le risque d'être arrêtés et extradés. Ils seraient en revanche incarcérés s'ils revenaient en Espagne où le mandat d'arrêt est toujours en cours. Donald Trump s'en prend une nouvelle fois à l'Union européenne. Aujourd'hui, le président américain s'insurge cette fois contre l'amende record de 4,3 milliards d'euros infligée hier par Bruxelles à Google pour abus de position dominante. Donald Trump martèle qu'il ne tolérera plus que l'Europe profite des États-Unis. L'homme de Néandertal savait faire du feu en percutant des pierres. Des chercheurs l'ont assuré aujourd'hui. Ils ont analysé plusieurs outils provenant de sites en France datant de 50 000 ans. On savait déjà que ce cousin de l'homme se servait du feu, mais on ignorait si c'était seulement grâce à des braises naturelles recueillies après des incendies provoqués par la foudre ou des éruptions volcaniques, ou bien si, comme l'homme moderne, il connaissait les techniques pour le produire lui-même.
À l'écoute d'RJB, il est 18h11. Sport.
Le maillot jaune s'impose à l'Alpe d'Huez. Geraint Thomas a enlevé cet après-midi l'étape reine du Tour de France cycliste. Le Gallois a pris le meilleur sur Tom Dumoulin et Romain Bardet en lançant une attaque à 200 mètres de l'arrivée. C'est la deuxième victoire consécutive dans les Alpes du maillot jaune. Le résumé de cette 12e étape par notre confrère de RMC Sport, Jérémy Sarka.
L'Alpe d'Huez au programme du peloton aujourd'hui et comme souvent, Sylvain Chavanel tente sa chance d'entrée de jeu. Un pétard mouillé pour le Français puisque la première véritable échappée se forme dans l'ascension du col de la Madeleine, classée hors catégorie. Un groupe d'une vingtaine de coureurs avec notamment Zakarine, Roland, Valverde, Maïka, Navarro ou encore le maillot à pois Julien Alaphilippe prend le large. Ils ne sont plus que 11 pour aborder le col de la Croix de Fer dont Steven Kruijswijk qui décide de partir en solitaire. Le Néerlandais réussit un one-man show mais subit l'explication des leaders. Nibali, Quintana et Bardet attaquent chacun leur tour. À 4 km de l'arrivée, Christopher Froome prend les choses en main et accélère. Ils ne sont plus que 5 pour aborder les 3 derniers kilomètres. Romain Bardet, Geraint Thomas, Tom Dumoulin, Mikel Landa et Christopher Froome. La victoire d'étape va se jouer finalement au sprint incroyable et le plus rapide dans ces conditions se nomme évidemment Geraint Thomas qui devance Tom Dumoulin. Deuxième victoire d'étape déjà pour le maillot jaune après son succès à La Rosière. Lui, finalement, le grand favori de ce Tour 2018.
Demain, le peloton partira de Le Bourdoisan pour rallier Valence, un parcours de plus de 169 km avec une ascension de catégorie 3 et un col de catégorie 4 au programme. En tennis, il n'y a pas eu de miracle pour Conny Perrin en 8e de finale du Ladies Open de Gstaad. La Neuchâteloise a été battue en 2-7, 6-3, 6-3 par la Française Alizée Cornet, tête de série numéro 1. Et un peu plus tôt cet après-midi, Victoria Golubic a également connu la défaite. La Zurichoise s'est inclinée face à Eugénie Bouchard, 7-6, 7-6. La Française élimine une deuxième Suissesse après avoir déjà pris la mesure de Timea Bachinski mardi. Et chez les hommes, après avoir déjà déclaré forfait pour Wimbledon, Thomas Berdych doit faire également l'impasse sur l'US Open qui débutera le 27 août à New York. Tombé à la 59e place mondiale, le Tchèque de 32 ans souffre toujours de douleurs dorsales.
Merci beaucoup Alexandre Steiner, on prend des nouvelles du ciel. Pour ce soir, un orage isolé est possible et ça devrait plutôt se passer sur les reliefs avoisinants. Sinon, pour le reste, le temps sera calme et sec durant la nuit. Quant à demain, nous nous réveillerons sous le soleil, il fera chaud, il fera lourd et ça deviendra de plus en plus lourd au fil des heures avec le développement de cumulus hein, qui donneront lieu à des averses et des orages qui pourraient s'avérer localement forts en cours d'après-midi, là aussi dans les hauteurs, mais ça débordera sur la plaine en fin de journée. Une dégradation pluvieuse orageuse assez active est attendue ensuite durant la soirée et la nuit suivante avec un risque de grêle et de fortes rafales. Concernant les températures, alors justement très chaudes, hein, entre 14 et 17 degrés à l'aube. Pour la seconde partie de journée, le mercure devrait atteindre 27 degrés dans la vallée de Tavannes, 28 degrés entre Moutier et Delémont, 29 degrés maximum autour du lac de Bienne.